Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Il est 9h41 sur France Inter. C'est reparti pour un nouvel Instant M.
Vous vous coupez ?
Non, je vous vois.
Vous êtes en direct, allez-y.
Philippe Manœuvre, tout jeune retraité de Rock'n'Fold qui a gratté pour Métal Hurlant les nouvelles littéraires. Oui, oui, les nouvelles littéraires. Playboy, Libération, causé au micro de France Inter et d'RTL et qui s'est agité devant les caméras d'antenne de Canal+, Canal Jimmy et M6. Une vie de critique de rock'n'roll qui dit l'irruption des médias de masse dans la contre-culture. Une vie faite d'amour fou pour les rockers au point que l'on ne sait plus très bien où se situe le critique. Est-il fan ou est-il journaliste? Peut-on être les deux à la fois ou la critique de rock'n'roll aurait-elle ouverte une troisième voie?
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Et bonjour Philippe Manœuvre.
Ah, c'est décès,
ah,
dès le matin,
ça réveille. Voilà. Ben, c'est normal, c'est parce que Rock, biographie romancée à lire très fort, c'est écrit sur la couverture aux éditions HarperCollins. Ça vient tout juste de sortir et publié sur la quatrième de couve avec une sorte de code-barre, là, un truc à flasher avec son smartphone. Et hop.
Vous allez sur Deezer et il y a ma playlist.
Et ben voilà.
C'est pas merveilleux.
Et on s'en est servi. Voilà. Le Philippe Manœuvre qui est retraité de Rock'n'Fold, mais qui est toujours sociétaire des grosses têtes sur RTL.
Oui.
Et ça, il aime.
C'était un choc. Quand je me suis retrouvé la première fois en face de Gad Elmaleh, Baffy et Bernard Mabille, c'est juste les gens les plus drôles de France. Et je me suis vraiment demandé ce que je faisais là avec eux. Mais Laurent Ruquier avait une petite idée derrière la tête. Et au bout d'un an, il dit Philippe Manœuvre est en train de devenir une grosse tête, donc je le crois.
Voilà, il a la grosse tête. Et par ailleurs,
il y a des gens sur Internet qui disent il l'a toujours eu.
Oui, il l'a toujours eu. Et RTL, par ailleurs, c'est une vieille histoire. Alors comme ça, dans les années 70, à la rédaction d'RTL, on filait du Captagon aux journalistes pour les tenir éveillés devant les dépêches.
J'étais coursier dépêche. J'étais pas journaliste. J'avais pas encore ma carte de presse. Je l'ai eu en 75. Mais allez, oui, on donnait parce que moi, je m'étais endormi plusieurs fois. C'était une époque. C'était la chute de Saïgon, Léon Zitrone arrivait le matin à 6h30, moi je dormais dans les dépêches alors on m'a aidé à rester réveillé la nuit, mais c'était le boulot, c'était comme ça.
Et donc on filait du speed à la rédaction d'RTL, voilà, ça s'appelle une biographie romancée, à vous de choisir. Au cours de ma carrière, je vous lis, Philippe Manœuvre, j'ai roulé avec Mötley Crüe, Scorpion, Van Halen, Kid Creole, AC/DC, les Stones n'ont pas de bus, ils se déplacent en fourgon blindé, être dans le bus d'un groupe, c'est la plus haute marque de béatitude dans ce métier.
Ben oui, parce que quand on est dans le bus, ça veut dire que d'abord on va d'un concert à l'autre, on est avec les musiciens, c'est un espace clos, ça roule, et on peut discuter, et on a des échanges, et on apprend beaucoup de choses.
Mais leçon numéro un de ce livre, la critique de rock, elle se fait avec les rockers, elle se fait physiquement avec les rockers.
Ah oui, il fallait y aller, il fallait être avec eux. Au début, on avait vraiment un accès illimité, on était deux types que ça intéressait. Qui que ce soit, les Stones, Blue Oyster Cult ou quoi que ce soit, il y avait vraiment le journaliste de Best et le journaliste de Rock et Folk. Et c'est tout. Après, on a vu arriver petit à petit, dans les années 80, le rock s'est mis à... Il y a eu des rubriques rock dans Elle, dans le Nouvel Observateur, dans Playboy. Moi, j'étais aux Nouvelles Littéraires où je faisais de l'agiprop pour le punk. Enfin voilà, on était venus. Le rock était notre religion. C'était pas du tout. C'était une musique qu'on voulait populariser. On voulait qu'elle remplace l'accordéon. On voulait que les rockers puissent donner des concerts partout. Que ça soit la musique. C'était notre musique. On la trouvait belle. On la trouvait merveilleuse. On voulait que tout le monde la connaisse.
C'est exactement ça dont on va parler. C'est-à-dire, où est-ce que vous êtes entre le fan et le journaliste?
Je suis un fan devenu journaliste.
Bah, on va parler. Les Stooges. Iggy Pop, Philippe Manœuvre, indestructible et souverain, il a appris sur le tas comme nous tous. Et vous dites, Iggy Pop, que vous et lui avez formé un couple intervieweur-interviewé qui se comprennent à merveille. Qu'est-ce que c'est qu'un couple intervieweur-interviewé?
C'est des gens qui se retrouvent à peu près tous les ans, pendant 20 ans, chaque fois qu'Iggy Pop faisait un nouvel album, une tournée, on lui disait « je voudrais bien voir quelqu'un », alors c'était Rock et Folk, je partais et on reprenait une conversation. Soit il avait changé d'avis sur quelque chose, soit il avait une nouvelle vision du rock. Enfin, on échangeait et c'était avec lui que j'ai eu la relation la plus intime, la plus longue. Au
point voilà, qu'un jour, vous racontez, oui.
Il m'a dit « Philippe, je crois qu'on est devenus amis ». Et j'osais pas le dire, mais oui, à force de se voir et de se comprendre.
Mais vous êtes pas le seul, parce que vous racontez, par exemple, que Freddy Hauser, qui est ancien grand reporter.
Ah, Freddy, c'est pas pareil. Alors,
à la colonne, voilà. À la une, voilà. Vous dites un pionnier, un baroudeur du rock en France.
Et un baroudeur de tout court, parce qu'il avait fait la guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie.
Ouais, mais il avait ramené. Il est devenu le meilleur ami de Keith Richards.
Et il est devenu le meilleur ami.
Et donc, vous racontez, ça traverse ce livre, ces amitiés extrêmement puissantes entre l'intervieweur et l'interview. Vous pouvez vous raconter cette interview absolument incroyable que Playboy vous fait faire de Serge Gainsbourg.
Et qui dure 3 jours. Oui, à l'époque, il n'y avait pas
d'alcool.
De limite. 3 jours d'alcool, mais de grandes discussions philosophiques aussi. Serge était hyper content de voir un jeune homme de 25 ans qui s'intéressait à son nouvel album, aux armes, etc., qui allait sortir. Moi, je savais que ça allait être un succès triomphal. J'avais écouté le disque tout l'été à Métal Hurlant et les gens disaient... mais quoi, c'est Serge Gainsbourg, il fait du reggae. Oh, c'est une super idée. Je savais que ça allait être quelque chose. Je savais pas que ça allait se vendre à 2 millions d'exemplaires et que Serge allait en profiter pour changer complètement de personnalité et devenir Gainsbourg.
Voilà. Et vous dites, cette interview, en fait, ça a été...
C'était la naissance de Gainsbourg.
Voilà, du mythe. Le mythe fondateur. Lester Banks, parce que vous rendez hommage aussi à pas mal de très grands critiques qui ont été vos aînés, vos prédécesseurs. Lester Banks, premier rock critique américain exilé de Detroit à New York pour écrire dans The Village Voice, on a sa voix.
Parlons de Emerson, Lake & Palmer. Vous avez là le summum de la stérilité. Un groupe dont vous savez qu'il n'a absolument aucune âme, aucune sensibilité dans leur musique. L'idée, c'est juste de jouer des solos programmés aussi vite que possible, à fond les ballons, et tout ça pendant 5 heures.
Lester Banks. Donc.
Alors Lester Banks, comme Nick Kent, qui était le critique anglais, c'était des maîtres parce qu'ils étaient déjà, c'était les Anglo-Saxons, donc le rock c'était à eux.
Il fallait Nick Kent, qui vous avait dit, on ne va jamais rencontrer un artiste en interview si on n'a pas moins de 32 questions rédigées avant de partir.
Voilà. Et surtout Nick Kent m'a dit, tu sais, si t'as quoi que tu penses de l'album. Si t'arrives en disant « j'aime pas votre disque », tu vas avoir du mal à sortir une interview. Le mieux, c'est d'arriver en disant « le disque sonne bien, c'est un bon son, tiens, c'est un joli disque, j'aime bien ». Et après, ça ouvre une discussion dans laquelle ça m'est arrivé. J'ai dit une fois à David Bowie, je trouve pas votre album particulièrement excitant. Et c'est là où David Bowie a explosé de rire en me disant, mais jeune fou, le rock n'est plus le fer de lance des mouvements de jeunesse. On me demande plus de chercher le futur, on me demande de faire le présent. Je fais du rock... C'était un peu moins. Eh ben oui, c'était David Bowie lui-même admettait ça.
Voilà. Et on sent dans la voix de Lester Banks, dans ce qu'on vient de faire écouter, on sent le critique qui peut être âpre, féroce. On sent l'homme solitaire. On sent l'exilé. On sent quelque chose qui est tout à l'inverse de ce que vous avez fait toute votre carrière.
Non, parce que...
Parce que chez vous, on sent une forme de quelque chose de très fédérateur, de très consensuel, d'éternel enthousiaste,
voilà.
De toujours...
Voilà, avec Philippe Paringaud, qui était mon premier rédacteur en chef à Rock & Folk, qui me disait toujours, est-ce que c'est bon pour le rock, ce que tu es en train de dire là? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu démolis cet album? Enfin, il posait des vraies questions. Il me disait, attends, tu n'as pas aimé l'attaché de presse. Est-ce que c'est pour ça que tu n'aimes pas l'album? Il me posait les... J'étais un jeune enfant, en fait, et j'avais une responsabilité incroyable. Et donc, grâce à Nick Kent, Lester Banks, Philippe Paringaud, j'ai réussi à me créer un personnage, et j'étais totalement, en fait, il fallait se l'avouer, j'étais sympathisant de tous ces gens bizarres.
Totalement.
C'était des
héros.
Mais c'est
le propre de votre
carrière.
C'était
des demi-dieux, et il fallait les respecter en tant que tels. Moi, j'ai dit toujours... Alors, les gens me disent, mais vous avez eu... Oh là là, votre carrière. Mais je dis, attendez, ma carrière, elle était très simple, très facile. On est en 1974, j'ai les cheveux qui m'arrivent sur les épaules, la longueur Mick Jaggerienne, ça va presque toucher les tétons, voilà. Donc la longueur Mick Jaggerienne, j'ai un perfecto, et j'ai 25 ans, et je connais toutes les phases B des 45 tours des Who par cœur. Ben, quand les Who me voient arriver, ils se disent, voilà notre cœur de cible en fait. On n'a qu'à être sympa avec ce mec-là, il va le dire qu'on est des gens fabuleux à tous ses lecteurs.
Beaucoup de gens n'ont pas compris votre respect pour Johnny. Réclamation 1969.
Yeah!
Et vous vous dites, c'est très simple en fait. Il est notre Elvis à nous. Il est celui qui en a terminé avec Tino Rossi. Si je vous parle de Johnny, Philippe Manœuvre, c'est parce que vous racontez comment Yarol Poupeau est devenu le directeur musical de Johnny, comment il amène Sébastien Farran, le manager dont il aurait toujours eu besoin, comment tous ces gens-là font du très bon boulot, et que vous êtes vous-même dans la place très rapidement avec cette équipe Hallyday. Interview, entretien, conférence de presse. On me demande même, écrivez-vous, d'assurer la première partie de Johnny en tant que DJ lors d'un concert en 2013. Immense bonheur. On me propose de suivre la tournée américaine et d'écrire un livre avec Johnny. Et qu'est-ce qui reste là-dedans de l'indépendance, du recul, du journaliste? C'est une question extrêmement sincère que je vous pose.
Quand Johnny a vu le livre, il m'a laissé totalement écrire ce que je voulais. J'étais pas là pour sculpter la statue de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, c'était un chef du rock. Et donc le rock, c'est un mouvement anarchiste qui n'a pas de chef. Donc c'est très dur d'être le numéro un. Que vous soyez Mick Jagger ou Johnny Hallyday, vous avez des gens qui disent « Oh là là, pourquoi il est là? Pourquoi il a ce succès? Oh là là, c'est pas normal. Oh là là, il a dû en faire des compromissions. Oh là 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 !» C'est très dur d'être un chef du rock. Il faut reconnaître. Et moi, je savais reconnaître ce qu'il avait apporté parce que j'étais là. Je l'avais vécu. Je me souviens de mes grands-pères disant « C'est un scandale. Il ne chante pas comme Tino Rossi. Il ne chante pas comme un vrai beau chanteur devrait faire. »
Vos grands-pères, que vous racontez tout en admettant que vous-même, quand vous lisez la biographie d'un rocker, vous zappez toujours, toujours, toujours les premiers chapitres avec l'enfance, la famille et le village d'origine. J'aimerais qu'on parle Téloche, Philippe Manœuvre, parce que c'est une grande histoire de Téloche, votre vie. Vous n'avez pas arrêté de vous faire virer de la télé.
Alors attendez, j'ai pas arrêté de me faire virer, mais j'ai jamais proposé un projet, jamais.
C'est ça, on vous a sans cesse
appelé. On m'a appelé depuis 1974, où une dame m'arrête dans la rue en me disant « Vous avez les cheveux longs, est-ce que vous aimez la musique rock? Est-ce que vous seriez d'accord pour faire une émission ou pour interviewer Alan Stivell ?» Oui, et je deviens le chevelu de la télé.
À 29 ans, vous devenez une starlette nationale grâce à Sex Machine. On écoute Bernard Lavillier, Cap Doré et La Vallière. Aïe, 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 hein, sur Antenne.
C'est pour le sexe, pas pour l'amour, pour le plaisir et pour l'humour. Dans mon dessin triangulaire, dans ma vision, il y avait la paire.
Get on.
Ah, Sex Machine.
Get on.
Ah, Sex Machine.
Get on.
Ah, Sex Machine.
Get on.
Oh.
C'était une émission mensuelle, Sex Machine, et tous les mois, on s'était dit comme ça s'appelle Sex Machine, dès la première émission commence, c'était Chagrin d'amour qui chantait Sex Machine. Et ensuite, on a demandé à Gainsbourg, on a demandé à Little Bob, on a demandé aux Dogs, on a demandé à Indochine, tout le monde a fait un morceau de James Brown pour Sex Machine.
C'est quasi irregardable aujourd'hui, Sex Machine, parce que moi j'ai retrouvé des archives, il y a des filles à poil partout, il y a Pauline Lafont, les nichons en l'air, en veux-tu, en voilà, etc. Il y a un petit côté Collard au chaud de l'époque.
Voilà, il y a un petit
super mauvais goût.
Après le Collard au chaud, mauvais goût, mais funk. Funk, on est sauvé parce que c'est du mauvais goût, mais c'est au service de la noble cause du funk. Les pochettes de James Brown sont pas toutes de bon goût non plus. Il y a un côté, on va vers les gens. Et puis surtout, quand on commence Sex Machine, on voit arriver Michael Jackson, Prince et Madonna dans l'année
la
où
Sainte
on commence
Trinité,
en 83.
Hein, ils ont droit à un chapitre dans votre bouquin.
Ah bah oui.
Et à propos de James Brown, vous racontez quand même une histoire totalement folle. Hein. James Brown en tôle depuis 3 ans, oublié de tout le monde, reculé dans une cellule en South Carolina. Et vous, pour Canal+, vous réussissez à l'interviewer, vous planquez une équipe de tournage dans la salle d'attente d'un dentiste.
Voilà, sur une idée de l'avocat de James Brown. Je m'installe avec une toute petite équipe, un cadreur, un ingé son et moi, et on est dans la salle d'attente de son dentiste. Et James Brown, qui est en prison, feint une rage de dents terrible. Donc la police l'amène à 11h chez son dentiste à Augusta. Les policiers le rentrent et ils se mettent devant la porte avec les armes, ils gardent. Et nous, en fait, on l'interviewe dans la salle d'attente du dentiste.
C'est absolument surréaliste. C'est ça.
Cette interview va passer à Good Morning America.
Ça a 8 millions de téléspectateurs. Aux États-Unis, et James Brown sera
relâché.
Mais
qu'est-ce qu'il fait en prison?
Il y a un truc vachement intéressant que vous racontez justement, et ça aussi c'est une forme de fil rouge, c'est-à-dire vous qui racontez une jeunesse à Chalon-sur-Marne, coupée de tout, ou trouver du hashish.
C'est pas possible.
C'était hyper difficile, mais même trouver des disques, trouver des lectures, en fait, arriver à relier ce monde qui était le vôtre et celui qui vous faisait rêver. C'est extrêmement intéressant parce que une fois que vous devenez un acteur des médias masse que sont par exemple la télévision, la radio, etc. Vous racontez la puissance du clip, vous racontez la puissance du clip, la puissance de Billie Jean que vous allez diffuser dans le premier Sex Machine.
Là, j'étais interloqué parce que, oui, effectivement, 8 jours après, je passe chez Chandisque, 66 Champs-Élysées, hein, c'était magnifique ce magasin qui n'existe plus, et je vois que le vendeur a une pile de 45 tours de Michael Jackson, Billie Jean, et pendant que je parle avec lui, il y a des gens qui rentrent en disant « Vous avez le 45 tours du gamin qui allume les trottoirs ?» Et il pose le Billie Jean. Personne ne savait le
et
nom.
Et vous diffusez le clip dans Sex Machine, ouais, et du jour au lendemain, ça devient un tube national.
Et une star. Incroyable. Et tout le monde veut en savoir plus. Et le mois d'après, il y a Beat It qui arrive. Alors là, c'est carrément tout le monde dit, mais c'est incroyable.
Et vous racontez que le clip de Thriller sera diffusé carrément dans une case spéciale un dimanche midi sur TF1.
Et chez Michel Drucker, sur France 2, parce que là, ça nous échappe. On dit, non, les enfants, arrêtez, c'est trop, là, c'est plus pour vous. Mais on le prend pas mal. C'est normal, on a été les découvreurs. On a fait faire sa première télé française à Madonna. Donc,
c'est ça, je trouve, qui est passionnant dans l'histoire de ce livre. C'est-à-dire,
oui, mais tout se passe pas toujours comme on voudrait. Non, mais
c'est quand même, ce que je disais, c'est quand même l'histoire d'une culture de masse et de médias de masse qui arrive et qui bouleverse littéralement, qui démocratise,
voilà,
qui popularise.
On arrive au début, il y a Jimi Hendrix sur scène et il y a le critique de Best et le critique de rock et folk, que ça intéresse et c'est tout. Dans les années 80, quand arrivent Michael Jackson, Madonna et Prince, l'embrasement est général. Ça intéresse France Soir, ça intéresse Télé 7 jours, enfin tout le monde veut.
Et entre-temps, la télé est devenue un média extrêmement puissant et vous êtes à l'intérieur de la télé.
Je suis à l'intérieur de la télé et je vais vivre un moment. Dans les années 95-2000, les rockers se détournent de la télé. Les rockers n'ont jamais su faire avec la télévision et petit à petit vont refuser d'aller à la télévision. Et c'est les gens du hip-hop qui vont reprendre le dossier parce qu'eux, ils savent aller à la télé.
Voilà.
Au même moment, Joey Starr et Kool Shane vont commencer à faire des émissions politiques et ils ont des choses à dire et on les écoute. Ils arrivent du bas des tours du 93 et ils commencent là où les rockers se sont arrêtés.
Merci beaucoup Philippe Manœuvre. Rock, HarperCollins, à lire très fort. On vous l'a dit, c'est la fin de l'émission.